Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
Je pense qu'il y a un peu de honte à ne pas y arriver, parce que quand même, c'est la chose la plus simple qui soit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas étudier pendant des années pour tomber enceinte. On sait que n'importe qui peut tomber enceinte. Donc on se dit, mais pourquoi moi, je n'y arrive pas, en fait. Donc il y a une honte, on se dit, voilà, ça vient de moi, j'ai un problème. Et quand on le dit pendant un mois, pendant 10 mois, après, on se referme, en fait, parce qu'on a beau le dire, on essaye d'avoir un bébé, donc ça, c'est l'enthousiasme autour de soi, puis ensuite, on se referme sur soi, parce que ça prend du temps, et en fait, on préfère se cacher.
Bienvenue dans la saison 2 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. On prend rarement la mesure de ce que traversent les couples qui essaient d'avoir un enfant et n'y arrivent pas. Des tout premiers mois où l'on relativise, au tabou qui s'installe autour de la procréation médicalement assistée, la fameuse PMA dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, en passant par les piqûres d'hormones et les petits rituels superstitieux, Alice, trentenaire, revient sur ce parcours de la combattante.
J'ai 37 ans, bientôt 38. J'habite au Tessin depuis un peu plus d'un an et j'ai décidé il y a quelques années de tomber enceinte, d'avoir avec mon compagnon un enfant. Et ça a été un peu le parcours du combattant pour arriver à ce terme.
Est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez des enfants ?
Alors, jusqu'à la rencontre avec mon compagnon, il y a à peu près un peu plus de 3 ans, je ne voulais pas d'enfants. Je pensais que je pouvais me suffire à moi-même, que je pouvais m'accomplir sans avoir forcément besoin de devenir mère. Personnellement, je ne me sentais pas capable d'avoir un enfant ou toute seule ou même avec certains partenaires. Et c'est né d'un coup, en fait, avec mon compagnon, qui a eu un très fort désir d'être père. Et je pense que ce désir-là m'a inspirée. Et avec lui, je me suis vue, en fait. Et donc, pendant un an, j'ai essayé naturellement. J'avais arrêté de mettre l'anneau contraceptif. Et puis, les mois passant, 3 mois, 4 mois, je commence un peu à m'informer, à regarder comment fonctionne un cycle. On croit connaître, en fait, puisqu'on connaît un petit peu son corps. Et on se rend compte qu'on ne le connaît pas suffisamment. Qu'est-ce que le cycle d'ovulation? Quand est-ce qu'on l'a? Et donc, ça m'a pris du temps pour m'informer. Et chaque mois, je devenais un peu plus rigoureuse dans le suivi de mes cycles. Parce que dans certains sites et ouvrages, il fallait prendre tous les jours, tous les matins, sa température. Alors, le matin, je vais essayer de ne pas oublier. Ça m'arrivait d'oublier, de sauter. Et puis, mince, cette fois-ci, j'ai arrêté pendant 3 jours la prise de température. Peut-être que j'ai raté, du coup, l'ovulation. Je disais, bon, c'est pas grave, pour le mois prochain, ça va être le bon. Et puis, ensuite, je suis venue après avec des tests de fécondité qui existent. En fait, c'est des petits packs de 10. Et donc, le premier jour des règles, on calcule à peu près 12 jours. Et ensuite, au 12e jour, on commence à tester nos urines grâce à ce stick. Donc, j'arrivais à repérer le jour de la fécondation. Sauf que dans mon cas, avec mon compagnon qui vivait dans un autre canton, de l'autre côté des Alpes, parfois, on n'arrivait pas à se trouver physiquement au même moment quand j'avais ce jour de fécondation. Donc, encore un mois de raté, il faut reporter de 28-30 jours. Voilà.
C'était pour des raisons professionnelles que vous viviez séparément ou c'était un choix ?
Non, c'était professionnel. En fait, on s'était rencontrés, on a vécu tous les deux dans des villes différentes. Et on a tout de suite donc engagé cette relation à distance. Et j'arrivais à passer beaucoup de temps chez lui et lui venait chez moi. Moi, je travaillais dans le domaine du graphisme, donc beaucoup de travail sur l'ordinateur, aussi beaucoup de pression. J'avais plusieurs employeurs, j'avais aussi commencé une formation pour devenir enseignante. Et puis lui était plutôt éducateur, travaille dans des potagers didactiques avec des enfants.
Donc, pour en revenir à la tentative de tomber enceinte, il y a eu la prise de température, il y a eu les ouvrages, les livres, etc., pour déterminer ensuite le compte des jours de fécondité. Est-ce qu'il y a eu d'autres méthodes ?
Alors là, c'est difficile de me rappeler par quel circuit sur Internet on cherche potion magique, fertilité. J'avais essayé aussi, j'ai trouvé sur un site Internet un test d'après la salive en fait. Je posais la salive le matin, j'observais avec un microscope, mini microscope, et si c'était en forme d'arborescence de fougère, ça veut dire qu'on était enceinte. Bon, j'ai essayé pendant 2 cycles, mais je trouvais que c'était pas efficace, j'avais l'impression que c'était un peu n'importe quoi. Et donc j'ai laissé tomber aussi ce petit objet que j'avais trouvé pour $30, venu des États-Unis, mais il m'a peu servi.
Et niveau app ?
J'en ai trouvé une en anglais qui me permettait d'inscrire dès mon premier jour de menstruation et de suivre un petit peu mon cycle avec les températures. Je pouvais marquer mes humeurs, je pouvais marquer si j'avais bien pris mon acide folique parce que c'est pour le bien-être, le développement de l'enfant en fait. Et puis des vitamines pour la fertilité avec plus de zinc, plus de potions magiques aussi pour nous dynamiser en fait. Sauf que, au bout d'un moment, quand on essaye après 6 mois, 8 mois, 1 an, on s'est dit, bon, est-ce qu'il va pas falloir effectivement que l'un des deux arrête le travail pour habiter ensemble? C'est pas évident, on n'arrête pas son travail d'un coup, on a des projets en cours, et puis parfois il y a des choses qui se passent et qu'on contrôle plus, donc c'est pas une période facile, en fait. C'est des choix, d'autant que la relation, même si mon compagnon, je lui fais confiance, on part dans ce projet ensemble, mais il y a toujours ce doute, est-ce que ça va tenir ? Est-ce que ça vaut la peine de quitter mon travail toute ma vie pour vivre avec lui, pour que tout se casse après ? Donc là aussi, la difficulté, c'était de savoir si on y tenait vraiment à avoir un enfant, et si je n'y arrivais pas, est-ce que notre couple tiendrait, en fait ? Donc ça aussi, c'était une angoisse que je vivais. Mais qui, après 1 an et demi d'essai, quand même, j'ai senti que je pouvais quand même compter sur lui. Je voyais qu'il me soutenait dans ma démarche. Voilà, il savait que je suivais mon cycle, que j'avais installé des applications, que je faisais des tests de fécondité. Pour ça, il me faisait confiance. Mais je voyais un peu aussi, à chaque mois, enfin, une frustration de sa part. Et quand j'ai annoncé que j'avais mes menstruations, il était déçu. Après, c'est pas qu'il voulait le montrer, mais je le voyais, je le sentais. Un peu à son silence, pendant quelques heures dans la journée, et puis ça repartait, on se remotivait. Et puis, je pense que ça a été un compagnon qui a essayé de tenir de son côté, à lui, ses frustrations. Moi, de ma part, c'était une frustration, un sentiment de vraiment une grande culpabilité. Je pensais que ça venait vraiment de moi, qui, avec des blocages, le fait que je travaillais beaucoup, que j'avais cette distance-là à gérer, les voyages, peut-être que je comprenais pas mon corps. Je me disais, c'est à cause de toutes ces années où je me suis empêchée, où je ne me suis pas entrevue comme mère. Et je me disais, je commence à avoir un enfant un peu tard. Et c'est vrai que je suis peut-être moins fertile. Peut-être que je produis moins de follicules, mes ovules sont moins actifs à l'intérieur, c'est moins dynamique que si j'avais 20 ans. Et donc, mon compagnon étant plus jeune, de 4 ans, je me disais peut-être que c'est plus ma faute, moi, que venant de lui. Et plus j'angoissais, et plus j'avais le sentiment que je bloquais encore plus tout ça.
À l'époque, vous en avez parlé autour de vous ?
Oui, j'avais l'impression d'en parler assez suffisamment déjà autour de la famille, de dire voilà, on essaye. Et de quelques amies, donc certaines qui elles aussi essayaient, m'ont conseillé, m'ont donné quelques ouvrages. Sauf que au bout d'un moment, quand on essaye après 6 mois, 8 mois, 1 an, on a l'impression de tourner en rond et puis d'embêter un peu les gens. Et puis aussi les copines qui nous soutenaient à ce moment-là, sont tombées enceintes. Et là, c'est un petit peu le moment un peu clivage où notre rapport, même si j'étais heureuse pour elles, change. Je ne pouvais qu'être contente pour les personnes qui avaient cette joie d'accueillir une grossesse, un futur bébé. Mais c'était teinté pour moi d'une grande tristesse. Donc c'était vraiment difficile à gérer. Et puis, de l'autre côté, les gens qui savaient qu'on essayait, plus les mois passaient et moins ils s'aventuraient à poser des questions, à demander alors comment ça va, vous tentez toujours. Parce que justement, ils sentaient que ça donnait un peu une souffrance pour moi. Et donc, le sujet est devenu un peu tabou. Déjà, c'est une pression pour soi-même, donc on n'a pas envie que les autres nous disent « Alors, ça a marché, t'as fait le test ce matin. » Et disons que ces échecs ont produit beaucoup de frustration. Il y a ces moments où on a un retard dans son cycle. On se dit « Ah, c'est peut-être ça. C'est vrai que je l'ai laissé un peu plus ferme. C'est un jour, deux jours, trois jours de retard. Peut-être que c'est ça. » Donc on fait un test de grossesse, il est négatif. Puis on en fait un le lendemain parce que toujours on n'a pas les règles. Donc c'est un certain coût parce que chaque test de grossesse, ça coûte à peu près 15 francs. Puis il y a test de fécondité, voilà, ça coûte à peu près 90, 100 francs. Pour un boîtier de 10 bâtonnets. Et puis c'est jetable, en fait, on ne peut plus réutiliser.
Donc après une année de méthodes plus ou moins fructueuses, qu'est-ce que vous vous êtes dit ?
Alors là, je me suis dit, effectivement, moi, mon corps, c'est le désert à l'intérieur, il n'y a rien qui se passe. Donc je suis allée voir des adresses vers des centres de fertilité. Et donc, moi et mon compagnon, on s'est dit, on va faire tous les tests nécessaires pour savoir la situation. Et effectivement, nos deux, nous allions bien. Ils nous ont dit, écoutez, il n'y a rien à signaler. Essayez encore au moins 6 mois. Et puis, si ça ne marche pas, revenez. Alors, quand on est dans ce processus fécondation objectif bébé, c'est clair que le rapport sexuel, en tout cas les moments d'intimité, évoluent. Ça devient un peu mécanique, quoi. Enfin, disons qu'on se dit, il faut absolument le faire maintenant, parce que la fécondation, là, c'est maintenant. Et puis, on n'a pas forcément envie, et puis, c'est pas très attirant, en fait. On essaye de faire dans une position, on se dit, peut-être que ça va être plus efficace. Après le rapport, je me dis, peut-être que je vais faire le poirier, pour que, voilà, comme on pourrait le faire de manière un peu stupide. On fait des choses un peu superstitieuses et puis ça enlève toute la spontanéité d'un rapport amoureux avec son compagnon. Alors l'orgasme, c'était la dernière chose qui était en objectif. C'était vraiment le spermatozoïde arrive et puis on espère, on attend. Alors quand on s'est rendu compte, voilà, ça ne marche toujours pas, malgré que tout semble fonctionner, on s'est dit... on va retourner au centre de fertilité et demander qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, en général, ils proposent une PMA, donc une procréation médicale assistée. On est très suivi en fait médicalement. On fait des piqûres, on fait des prises de sang, des tests d'urine pour voir où on est le taux d'hormones et beaucoup d'échographies aussi pour voir l'état des trompes. Il y a un traitement hormonal à partir du premier jour des règles. Et pendant à peu près 14 jours, on s'injecte une hormone qui est l'œstrogène pour justement stimuler les follicules. C'est ce qui est produit par les trompes. Et du follicule se dégage donc un ovule, en fait. Et cet ovule, ensuite, voyage dans les trompes jusqu'à l'utérus et rencontre un spermatozoïde qui peut ensuite produire la nidification, etc. Pour ma part, j'ai commencé par une dose assez faible parce qu'on commence... doucement, sans trop agiter le corps avec toutes ces hormones. Et puis, aux deux autres essais, on augmente les doses, en fait, puisqu'on se rend compte que ce n'est pas suffisant.
Comment vous le viviez, le fait de prendre des hormones en plus ?
Peut-être plus sensibilité, en fait. J'étais plus sensible, les larmes venaient peut-être plus, mais je n'ai pas pris plus de poids. Je ne me suis pas sentie si différente que ça. C'était plutôt difficile, disons, au quotidien, de faire cette piqûre, de ne pas l'oublier, parce qu'il faut la faire exactement à la même heure. Et puis, moi, je n'aime pas beaucoup les piqûres. Au départ, j'ai demandé à mon compagnon de les faire, mais j'avais toujours des hématomes quand il le faisait. Donc, c'était mieux que je le fasse moi-même. Et à la fin du 14e cycle, une fois que la période d'ovulation a été bien repérée par le gynécologue, on nous propose tout de suite de faire une insémination. Bon, c'est toujours un moment un peu étrange parce qu'on se retrouve là, les jambes écartées, et puis voilà, on a un homme en plus, voilà, gynécologue. Et puis on regarde cette longue seringue, on se dit, mais ils inséminent un faible pourcentage de sperme. Et donc, on se demandait, mais pourquoi est-ce que vous ne mettez pas tout, en fait? On augmente les chances comme ça. Il me dit, non, surtout pas, parce qu'en fait, les spermes, avec cette quantité-là, passent par le col de l'utérus. Donc, ça serait peut-être un choc pour votre utérus. Donc, on a pris les meilleurs spermatozoïdes. C'est déjà 2 milliards de spermatozoïdes sur les 15 qu'on produit votre compagnon. Et donc, il y a suffisamment de chances à ce stade-là. Voilà. Puis, en général, le gynécologue vous dit, vous pouvez vous lever tout de suite, il n'y a pas besoin de rester allongé. Mais par superstition, on reste un peu 5 minutes. On se dit, ça a peut-être plus de chances de bien circuler à l'horizontale après l'insémination. Même avant, en fait, je faisais des jeûnes. Je me disais, il faut que je sois en parfaite santé. Je n'osais pas du tout boire un verre de vin. Et ce qui contribuait aussi à ma frustration. Je me disais, mais il y a des femmes qui fument, il y a des femmes qui boivent et qui tombent enceintes du premier coup. Pourquoi pas moi? J'essayais de faire un peu plus de yoga, plus de relaxation. Surtout que, en sachant, j'ai ce corps, ce fluide-là à l'intérieur. Et j'essayais d'imaginer l'ovule, naviguer des trompes jusqu'à l'utérus, rencontrer ce spermatozoïde. Et j'y croyais, en tout cas je me disais, si j'y crois, ça va marcher.
Est-ce que vous avez parlé avec votre conjoint de son sentiment à lui pendant ces 3 PMA?
Ensemble, on essayait, il venait au PMA évidemment, donc pendant les inséminations, et on est plein d'espoir, et puis ensuite, les 14 jours qui suivent, on essaye de pas trop y penser, pas trop en parler. Et ensuite, à l'approche des jours, peut-être que lui, il demandait, alors, comment tu te sens? Est-ce que tu sens quelque chose? Je dis, en général, même les signes sont pas fiables. On peut avoir les seins qui sont un peu plus durs, mais c'est aussi lié à la menstruation. Donc, on se sent un peu trompé par son corps. Plus le 28e jour arrivait, moins il posait de questions, parce qu'il attendait que moi, je le dise. Alors, ça a marché, ça n'a pas marché. Ça devenait, j'en parlais de moins en moins, en fait, autour de moi. C'est très intériorisé. Quand j'étais seule et que les douleurs de ventre arrivent, les menstruations sont là, premier jour, on pleure, quoi. On se dit, mince, ça n'a pas marché. J'avais beau essayer d'en vouloir à personne, ni aux amis qui tombaient enceintes, ni à mon compagnon qui me soutenait, c'était quand même psychologiquement difficile. Je pense qu'il y a un peu de honte à ne pas y arriver, parce que quand même, c'est la chose la plus simple qui soit. C'est-à-dire qu'on ne doit pas étudier pendant des années pour tomber enceinte. Il n'y a pas de concours, de compétition, il y a être le meilleur, quoi. On sait que n'importe qui peut tomber enceinte. Donc on se dit, mais pourquoi moi, je n'y arrive pas, en fait? Donc il y a une honte, on se dit, ça vient de moi, j'ai un problème. Et quand on le dit pendant un mois, pendant 10 mois, après, on se referme, en fait, parce qu'on a beau le dire, on essaye de tomber enceinte, on essaye d'avoir un bébé, donc ça, c'est l'enthousiasme autour de soi, puis ensuite, on se referme sur soi, parce que ça prend du temps, et en fait, on préfère se cacher.
Pourquoi est-ce que, selon vous, les femmes ont encore tellement cette notion du fait que c'est leur faute, leur problème à elles?
Je pense que la femme, elle l'a beaucoup apporté sur elle. Même si le partenaire joue beaucoup, c'est d'abord elle qui porte l'enfant. C'est à l'intérieur d'elle que tout se passe. Et puis, la charge financière, c'est une somme, en fait. Parce qu'une PMA, c'est à peu près 1000 francs. C'est soutenu par la LAMAL. On est assuré pour 3 essais. Sauf que dépasser ces 3 essais, c'est ensuite à notre charge. Ça, c'est aussi une charge psychologique de se dire, non seulement on fait un traitement hormonal de choc sur son corps, plus c'est nous qui devons accueillir cet œuf et faire qu'il existe. Et en plus de ça, la charge financière est toute à la femme. Et donc, au bout de déjà la deuxième PMA, je me suis découragée. J'ai dit, pause, parce que j'en ai assez des piqûres, ça ne marche pas. Donc, j'ai un peu lâché prise. J'ai commencé un peu à regarder aussi les autres options. Alors, il y a l'adoption. J'ai regardé en Suisse comment ça se passe. En fait, il faut être marié au moins depuis 3 ans, si je ne me trompe pas. C'est encore un long processus. J'ai regardé même pour les options de mère porteuse. Dans quel pays c'est autorisé, de quelle façon ça se passe, je regardais des documentaires. Et après, je commençais à me dire, une vie sans enfant. Bon, t'en as jamais voulu jusqu'à 34 ans, donc tu vas peut-être bien y survivre. Mais j'y pensais tout le temps, en fait. Vraiment asphyxiée par cette idée, quoi. Parce que déjà de voir des femmes enceintes dans la rue, de voir des bébés partout, on voudrait ne pas y penser, et puis c'est sous nos yeux. D'ailleurs, au centre de fertilité, il n'y a pas du tout de photos de bébés. Et si une femme tombait enceinte grâce à ce processus, il l'enverrait très vite vers une autre gynécologue de façon à ce qu'il n'y ait pas en salle d'attente de tel croisement.
Ce serait comme une pression supplémentaire ou ce serait ça, un manque de délicatesse, quoi.
Exactement. Et pour eux, c'était important de jamais mélanger ces choses. Alors, pendant 3 PMA, on a essayé de tomber enceinte. Et puis la troisième, elle a pris. Et avec mon compagnon, quand on a vu... le test positif, on a sauté au plafond, ça a marché enfin. Mais tout de suite après donc un test sanguin plus une échographie, notre gynécologue nous a dit votre taux de HCG en fait de cette hormone qui est produite par le placenta, elle est très faible. Donc on va faire un suivi, je suis pas très rassurée. À ce stade-là, déjà j'étais assez contente de tomber enceinte. Et puis, je ne me rendais pas compte. Je me disais, il faut que j'y croie. Si j'y crois, ça va fonctionner. Et puis, tout d'un coup, voilà, en novembre dernier, j'ai fait une fausse couche à 5 semaines. Ça commence comme les règles. On a une douleur au ventre, mais vraiment plus forte que d'habitude. Et du coup, là, j'ai perdu beaucoup de sang. Ça s'est passé à la maison, un week-end. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais tenir comme ça. J'ai pris quelques médicaments pour les douleurs de ventre. Et j'ai pris rendez-vous le lundi ou le mardi avec le gynécologue qui a pu constater la fausse couche et que tout avait été expulsé naturellement. Pour d'autres amis, c'est passé par l'hôpital, des pertes, vraiment des hémorragies de sang. Dans mon malheur, moi, je me suis considérée assez chanceuse que ça se passe aussi naturellement. J'ai pas eu besoin d'un curetage. Quand j'ai fait l'échographie, mon gynécologue m'a dit c'est parfait, j'ai pas besoin de faire grand-chose. Et pour moi, du coup, j'ai bien vécu cette fausse couche. Réussir à tomber enceinte, malgré cet échec, ça m'avait vraiment boostée, bizarrement. Donc dans ce malheur-là, vraiment, j'étais positive.
Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?
Ensuite, on a découvert qu'au terme donc, de ces 3 PMA, si une fausse couche il y a eu, on peut à nouveau repartir de zéro et recommencer 3 PMA.
Rembourser donc ?
Rembourser. Et donc ça, ça a été une belle surprise. On s'est dit, bah voilà, on a encore de nouveau 3 chances. Ça nous a remotivés et on s'est dit, on va la recommencer, mais par contre, il faut quand même laisser mon cycle à nouveau se remettre, quoi, parce que mon corps, il a quand même été affecté. Donc, j'ai fait une fausse couche en novembre 2018 et avec mon gynécologue, on a pris rendez-vous en janvier. Donc, en fait, on s'est assez pressé. On s'est dit, on va commencer cette année 2019, on va faire nos 3 PMA et on va voir si ça marche. Il faut préciser que quand j'avais commencé ma 3e PMA, j'habitais déjà ailleurs, donc j'avais quitté mon travail, j'avais finalement en fait ralenti. J'espère que ce n'est pas le cas pour toutes les femmes qu'elles arrêtent leur travail, ce n'est pas forcément la nécessité, mais en tout cas pour moi, habiter avec mon compagnon, cette année 2019, je partais plus positive. Ensuite, j'ai enfin appliqué les conseils que certaines amies m'avaient dit. Va voir une acupunctrice, va voir une ostéopathe qui est spécialisée dans la fertilité, qui travaille beaucoup au niveau du bassin pour un peu dégager tout ce qui pourrait être bloqué. Et puis, en fonction de la période à laquelle on fait cette acupuncture, elle applique les aiguilles pour travailler sur certaines zones.
Donc, c'est des aiguilles dans le bas-ventre ?
Oui, mais aussi dans le dos. Elle essaye de rééquilibrer un petit peu ce qui peut être bloqué, alors soit par la fausse couche, mais aussi par notre corps. En fait, naturellement, on n'est peut-être pas forcément aligné. La chose aussi qui m'a beaucoup aidée, c'est que son parcours à cette acupunctrice, c'était qu'elle aussi a beaucoup galéré pour tomber enceinte. Elle a attendu, je pense, avec son mari, 4 ou 5 ans avant de tomber enceinte. Donc, je pense que m'ouvrir à elle... ça m'a aidée. J'ai rencontré aussi une sage-femme qui a eu aussi des difficultés à tomber enceinte. Et là aussi, je ne la connaissais pas et elle s'est ouverte à moi. Et pour moi, ça a été aussi un vrai coup de pouce. Je me suis sentie libérée, en fait. Je ne suis pas la seule. Elles ont réussi. Elles ont fait un long chemin pour se concentrer sur leur projet, trouver justement cet équilibre, en fait, C'est-à-dire, qu'est-ce qui ne va pas peut-être psychologiquement, au-delà du corps, si tout fonctionne, est-ce qu'il y a un blocage? Et donc d'aller le chercher sereinement.
Donc, on revient à la clinique de fertilité, nouvelle PMA.
Nouvelle PMA, le sentiment d'avoir déjà tout bien fait. Je suis tombée enceinte une fois, j'ai fait une fausse couche à 5 semaines, mais en tout cas, c'était positif, j'ai réussi. Je suis allée voir une acupunctrice, j'en ai parlé un peu plus, mais à des personnes qui ont eu le même vécu, et je me suis sentie en relation avec elles. J'ai pris un chien, parce que j'avais déjà entendu plusieurs histoires, mais oui, ils ont adopté un chien, puis d'un seul coup, elle est tombée enceinte après 10 ans de tentatives infructueuses. Et c'est vrai qu'accueillir dans sa vie un petit être, même si c'est un chien, ça nous sort de ces angoisses, de cette frustration, en fait. Et on se concentre sur ces petites boules de poils. Et alors, je sais pas si c'est ça qui a marché, si c'est l'acupunctrice, si c'est moi qui me suis libérée. Mais en tout cas, cette quatrième PMA a fonctionné.
Vous vous souvenez du moment où vous avez fait le test?
Oui, je l'ai fait, mais très très tôt, le matin. À 4 heures du matin, je me suis levée. Et donc, j'ai fait le test, mais j'y croyais... Enfin, je voyais... J'étais pas très bien réveillée, donc j'ai dû me frotter les yeux 2-3 fois, et puis j'ai dû montrer mon test à mon compagnon qui était aussi réveillé, parce que quand je suis rentrée dans la chambre, il était déjà levé, tout stressé, alors. Et je lui ai montré sans rien dire, et donc quand il a vu le test, il était tout content, c'était chouette, quoi. Après, on s'est dit, bon, on va y aller tout doucement. Hein. C'est positif, on va appeler le gynécologue, et puis on va faire toute la suite comme d'habitude. J'ai passé les 3 premiers mois vraiment un peu angoissée, à me dire, bon, je ne vais pas l'annoncer tout de suite autour de moi, parce qu'on ne sait jamais. Et puis, on attend patiemment, sans trop se réjouir. Donc là, je suis à 6 mois. Bizarrement, on se dit, bon, ben, enfin, on y est. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir le dire aux amis qui ont eu des enfants. Et eux aussi se réjouissent, ah, enfin, vous y avez réussi. Et donc, on vit ensemble cette joie. La famille se réjouit, parce que aussi, en fait... Je pense qu'ils attendent un petit fils, une petite fille depuis longtemps. Du coup, on comprend tout de suite que ça a été quelque chose qu'ils ont intériorisé aussi de leur côté. Alors après, c'est là où tout change en fait. On commence à le vivre en fait, à le sentir et à se dire, à se préparer. Et c'est là où on se dit, ben, j'ai eu beau attendre de tomber enceinte pendant ces 2-3 ans, je ne suis pas du tout prête. Avoir un enfant, ça veut dire quoi? C'est tout d'un coup... un stress lié à est-ce que je vais être une bonne mère, et c'est d'autres questions qui viennent, mais qui sont des questions naturelles en fait. Est-ce que je vais y arriver, tout simplement? Il y a peut-être la question aussi de se dire, est-ce que l'enfant va être en bonne santé? Donc c'est encore une crainte que je porte là en me disant, j'espère que ça va bien se passer jusqu'à l'accouchement. C'est un peu les préoccupations que j'ai. Et puis le plaisir de sentir cet enfant bouger tous les jours, donner des coups de pied, de dire, waouh, en fait c'est magique quoi. Il n'y a rien eu pendant 37 ans. Et puis tout d'un coup, le corps s'est mis en marche tout seul, il sait ce qu'il doit faire et sa vie à l'intérieur, quoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez dire aux auditrices qui essayent les traitements hormonaux, etc. Et aux gens qui font partie de leur entourage? Est-ce qu'il y a des choses à éviter, des choses à faire?
Les choses à éviter, c'est d'être trop questionnant, en fait. C'est arrivé souvent qu'on nous pose la question, alors, vous avez quand un enfant? Donc on souriait, disons qu'on gardait la face en disant « oui, on y pense ». On essayait de cacher le fait qu'on essayait. La personne qui essaye, qui enchaîne les échecs, il suffit juste d'un mot pour d'un seul coup refermer la coquille. Et je pense qu'il faut avoir des questions ouvertes. Plutôt que de dire « est-ce que vous essayez toujours ?» Enfin, il y a une formulation, je pense qu'il faut vraiment dire « comment est-ce que tu te sens ?» Et ne pas avoir peur de poser la question. Et ensuite laisser la personne s'exprimer. Parce que j'en ai un peu aussi souffert de voir que même les amis plus proches n'osaient pas me poser la question. Et je comprends de leur côté. Même moi, à ce stade-là, j'ai des difficultés à approcher une femme qui essaye encore. Je sais, par exemple, qu'un couple essaye, un couple d'amis. Et moi, dans ma joie d'avoir réussi avec mon partenaire, je lui écris un petit message, je dis... que si ils avaient besoin d'en parler, si j'étais passée par plein d'étapes et que je serais ravie d'en parler. Et là, je me suis sentie déjà intrusive, en fait. Parce qu'au final, quel était mon droit? Moi, j'étais tellement enthousiaste de vouloir le partager que d'un seul coup, je me suis dit peut-être que j'ai dépassé la barre. Donc, peut-être aussi la raison pour laquelle témoigner, en fait, c'est simplement offrir un témoignage et puis quelqu'un le prend à un moment selon son parcours, l'écoute et là tester, voir si elle a envie de parler ou pas. Parce que parfois on n'a pas envie.
Quel regard aujourd'hui vous portez sur tout ce parcours ?
C'est des épreuves qui m'ont construite. Je me suis un peu plus interrogée sur mon corps, j'ai compris un peu plus de choses. Et puis aussi, j'ai un peu relativisé, je me dis, on veut un peu les choses tout de suite. Et au final, ce qui est le plus naturel dans la vie, comme avoir un enfant, en fait, c'est pas donné. Donc, il faut créer cette patience-là pour y avoir droit. Certaines ont cette chance-là de tomber enceinte dès qu'elles arrêtent la pilule. Et puis d'autres doivent passer par ce parcours. Et moi, au final, je l'accepte. Enfin, j'en suis heureuse. Par contre, pour un deuxième enfant, si on s'y tente, moi, j'aimerais essayer de manière naturelle cette fois-ci. Me dire, est-ce que mon corps serait capable de le faire tout seul, sans PMA, sans hormones, sans tout traitement ?
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace. Je suis Célia Héron. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. Et puisque vous êtes encore là, j'en profite pour vous encourager à aller écouter Rafu, un podcast du temps qui fait mordre la poussière aux clichés qui collent au basque des sportives, proposé par Pascaline Sordet. À dans 15 jours!